Bonsoir à toutes et à tous. Du jamais vu en France depuis 16 ans, un séisme d'une magnitude de 5,4 a secoué la Drôme et l'Ardèche ce midi. Grosse frayeur des habitants, des dégâts matériels, tout le monde ne peut pas rentrer à la maison ce soir. Des habitations ont été fragilisées, reportage dans la commune d'Utaye à suivre dès le début de ce journal. C'est le premier monument aux morts inauguré depuis la guerre d'Algérie, une statue de bronze dévoilée ce 11 novembre dans le 15e arrondissement de Paris par Emmanuel Macron, en hommage aux soldats combattants à l'étranger au péril de leur vie. Une femme tuée par son compagnon hier soir en Alsace, elle avait déjà porté plainte, ça n'a pas empêché les coups de couteau, témoignage de sa fille à suivre dans quelques minutes. Des oligarques russes ont fait de grosses donations aux conservateurs britanniques, révélation du Sunday Times, à un mois des élections générales, des révélations très embarrassantes pour Boris Johnson, nous verrons pourquoi. Et puis des ballots de cocaïne qui s'échouent depuis près d'un mois sur les plages de l'Atlantique, accès interdit à la cano, explication du maire dans cette édition.
France Inter.
La terre a donc tremblé pendant une dizaine de secondes aujourd'hui entre la Drôme et l'Ardèche. Séisme d'une magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. Bilan, 4 blessés dont un grave. Des secousses ressenties de Lyon à Saint-Étienne en passant par Grenoble. L'épicentre est près de la commune d'Utaye à côté de Montélimar. Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs dizaines d'habitants ne vont pas pouvoir passer la nuit chez eux mais dans des gymnases comme celui de Chamontin où s'est rendu Christophe Vincent.
Une soixantaine de personnes, dont beaucoup d'enfants, s'apprêtent à dormir dans le gymnase Chamontin. Plus tôt dans la soirée, c'est la préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, qui leur a donné les dernières consignes.
Vous pouvez aller récupérer des affaires ce soir avec les pompiers pour ceux qui n'ont pas été cités là-dedans. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Il y aura des pompiers avec vous pour voir s'il y a des dégâts. S'il n'y a pas de dégâts, vous ne craignez rien. Vous pouvez rentrer chez vous. Si vous voyez des fissures, vous ne prenez pas de risques et vous revenez.
Isabelle Memery a cru sa dernière heure venue. Elle n'a pas voulu rentrer chez elle. Trop peur.
J'ai vu mes énormes murs d'une vieille maison bouger. Je n'avais jamais vu des murs bouger et un plafond bouger. Et tout ce qui était accroché au mur tomber. Alors, j'ai des fissures très importantes, dont une où je peux carrément voir le jour. J'y suis retournée pour prendre des affaires et j'ai été prise de tremblement. Du coup, je me retrouve au gymnase parce que je ne veux pas retourner chez moi. Les pompiers ne sont encore pas pensés. Je préfère rester à l'abri.
Demain matin, les pompiers reprendront leurs inspections des maisons fissurées et les écoliers resteront chez eux. Auteuil, Christophe Vincent, France Inter.
Et des pompiers qui ont réalisé 85 interventions, dont 73 dans la commune d'Utaye. Autre conséquence de ce tremblement de terre, les réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas sont actuellement à l'arrêt pour une durée indéterminée. Une alarme a été déclenchée sur le site. Sandy Dauphin, en vertu de la procédure, un audit approfondi est donc nécessaire.
Oui, la centrale va être fermée, le temps de faire des vérifications plus approfondies. Alors pour l'instant, il n'y a pas de dommages visibles, mais c'est la procédure. Principe de précaution, explique Rémi Cato, directeur des centrales nucléaires à l'autorité de sûreté nucléaire.
Ça ne veut pas dire que l'installation a été fragilisée, ça veut dire que le séisme était suffisamment important pour qu'on aille voir ce qui s'est passé sur l'installation. À ce stade, il n'y a pas eu de dommages qui ont été identifiés, mais le séisme a été suffisamment important pour qu'on doive aller voir réellement et en profondeur si l'installation est toujours en bon état.
L'arrêt d'une centrale, c'est une procédure qui peut prendre plusieurs heures. Ce soir, on ne sait pas pour combien de temps la centrale de Cruas sera à l'arrêt. C'est à l'autorité de sûreté nucléaire de donner ensuite son autorisation pour le redémarrage. Rappelons qu'une centrale est conçue pour résister à des séismes beaucoup plus importants. Hein. Un séisme de 5,2 avec une précision de taille, un séisme de 5,2 avec des calculs selon lesquels ce serait l'épicentre sous le réacteur.
Une précision signée Sandy Dauphin sur France Inter. Elle, en revanche, ne semble pas arrêter ses activités nucléaires. Elle, c'est la République islamique d'Iran. Ce soir, l'Union européenne se dit extrêmement préoccupée et exhorte Téhéran à respecter l'accord de Vienne signé en 2015. Des particules d'uranium ont été détectées dans un lieu non déclaré, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui ne précise pas pour autant le nom du site iranien en question. Une chose est sûre, l'Iran continue d'enrichir de l'uranium sur son site souterrain de Fordo et dépasse désormais le seuil autorisé par l'accord de Vienne. 6 grandes statues en bronze, 5 hommes et une femme portant un cercueil invisible. Inauguration aujourd'hui par Emmanuel Macron d'un monument aux morts installé dans le parc André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris. Monument dédié à ces 549 soldats morts à l'étranger en opérations extérieures, en OPEX comme on dit dans le jargon militaire. Inauguration à l'occasion des commémorations du 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Nathalie Hernandez, le président de la République a pris la parole devant des lycéens mais aussi devant des proches de militaires tombés au combat.
C'est un président au visage grave qui a inauguré ce mémorial. Emmanuel Macron est aussi chef des armées. Il porte donc la responsabilité de l'engagement militaire de la France. Le chef de l'État a d'abord déposé une gerbe devant la sculpture réalisée par Stéphane Vigny. 6 soldats de bronze, 5 hommes et une femme portant un cercueil invisible. Pour redonner vie à ces combattants, des lycéens de Castres et d'Agen ont lu leur témoignage.
Mali, 2016.
Je vis partir mon frère. C'est un soldat que la République fit revenir des sables du désert. Un soldat de 28 ans, que le ciel d'encre et de scintillement s'ouvrant au-dessus de lui, dans l'immensité solitaire du Sahara, avait émerveillé la veille de sa mort.
549 noms sont désormais gravés sur le mur entourant cette sculpture. Tous ces soldats ont donné leur vie pour défendre la République, a rappelé ensuite Emmanuel Macron.
La perte d'un être cher est irréparable, mais celui qui meurt pour la France ne meurt pas en vain. Celui qui tombe au champ d'honneur ne tombe jamais pour rien. Sa vie donnée, ce sont des vies protégées, des vies sauvées. Sa vie donnée ne sera pas oubliée, jamais.
Le chef de l'État a également remercié les militaires actuellement déployés. Ils sont notre sentinelle et notre bouclier, a conclu Emmanuel Macron.
Nathalie Hernandez, et ce discours d'Emmanuel Macron intervient à la veille de l'ouverture du 2e Forum de Paris sur la paix. Sont attendus dans la capitale jusqu'à mercredi une 30aine de chefs d'État et de gouvernement. Le président de la République en accueille une partie ce soir, quelques jours après avoir évoqué la mort cérébrale de l'OTAN, les difficiles relations internationales avec les États-Unis ou encore la Turquie. La Turquie justement qui expulse de son territoire des djihadistes ayant combattu dans les rangs de l'organisation État islamique. 11 détenus français sont concernés, annonce du ministre turc de l'Intérieur. Il s'agirait de 4 femmes radicalisées et de 7 enfants. Alors un des nombreux dossiers qui sera sans doute abordé au cours de ce forum de Paris pour la paix, celui concernant l'Amérique latine, secouée par plusieurs contestations. D'ailleurs en Bolivie, une foule de partisans du président, démissionnaire Evo Morales, se dirige en ce moment vers la capitale La Paz. Lâché par l'armée bolivienne dimanche, après 3 semaines de violentes manifestations, le socialiste Evo Morales était aux abonnés absents depuis hier. Il se trouve actuellement au Mexique qui lui accorde l'asile politique. De son côté, la future présidente par intérim annonce la convocation d'élections. Jeanine Agnès ne précise pas de calendrier électoral, mais elle assure que la Bolivie aura un président élu le 22 janvier prochain. Une chose est sûre, les États-Unis applaudissent l'armée bolivienne pour s'être désolidarisée d'Evo Morales. C'est un message fort lancé au régime illégitime, déclaration signée Donald Trump. Vous écoutez France Inter, 23h08. Un homme de 27 ans interpellé aujourd'hui à Lacanau, en Gironde, en possession de 5 kilos de cocaïne. Originaire de Toulouse, le jeune homme a ramassé 5 des nombreux ballots de drogue qui s'échouent sur la côte atlantique depuis la mi-octobre, environ une tonne au total. Conséquence, on peut l'imaginer, du naufrage d'un bateau de narcotrafiquants. Transporter ce type de produit en France est un délit passible de 10 ans de prison. C'est pourquoi 6 communes de Gironde ont décidé de fermer provisoirement l'accès à leur plage. Écoutez le maire de Lacanau, Laurent Perrondet.
C'est les gendarmes qui m'ont demandé de le faire pour leur faciliter le travail. Et puis je me suis dit que c'était important de le faire aussi, puisqu'il y avait quand même des risques sanitaires et la santé publique peut être mise en danger. Et la deuxième chose est aussi communiquer pour que les gens ne les ramassent pas, parce que là aussi il y a un danger. On doit prévenir, appeler le 17, mais surtout pas les ramasser, parce qu'on encourt des peines de prison importantes. Notre police municipale veille, mais c'est surtout les gendarmes, les douaniers, les forces de gendarmerie avec l'hélicoptère. Donc ils ont déjà fait partir des gens de la plage. Ils sont pas obligatoirement des gens qui consomment de la cocaïne, mais bon, on annonce de la cocaïne à grand renfort de publicité sur les chaînes, donc c'est vrai que ça les attire un peu pour venir voir si finalement il y en a partout. Il n'y en a pas à Lacanau, mais depuis la pointe de Grave, c'est quand même 80 et quelques kilos qui ont été trouvés jusqu'au Cap Ferret.
Laurent Perrondet, le maire de Lacanau. Une histoire sordide en Russie. Oleg Sokolov, 63 ans, historien russe de renom, a avoué avoir abattu puis démembré sa jeune compagne, professeur de l'université d'État de Saint-Pétersbourg, décoré de la Légion d'honneur en France en 2003 pour ses travaux, notamment sur Napoléon. Eh bien, Oleg Sokolov a été placé en détention. L'homme a été interpellé par la police russe samedi matin en état d'ébriété. Dans son sac, un pistolet et deux bras de femme. Les féminicides, un fléau qui n'épargne pas non plus la France, loin s'en faut, puisqu'une femme a encore été tuée par son compagnon hier à Oberhofen-sur-Moder, en Alsace. 131e féminicide depuis le début de l'année. Un couple en instance de divorce, une femme de 40 ans qui avait déjà déposé plainte et main courante. Elle a appelé sa fille au secours au téléphone hier soir. En vain, Stella est arrivée, la première sur les lieux.
Ma mère m'a appelé cette nuit à 23h pour me dire à l'aide qu'il avait de nouveau, et encore une fois, caché un couteau. J'ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture. J'ai téléphoné à la gendarmerie, qui eux nous ont dit « oui, on arrive ». J'habite à Bichulaire, la gendarmerie est à Bichulaire. J'ai mis 3 minutes à venir jusqu'à chez ma mère. Eux n'étaient pas là avant 15 voire 30 minutes. J'ai eu le temps de défoncer la porte, d'être menacée par mon beau-père à coups de couteau, d'appeler les pompiers, de voir ma mère mourir par 4 coups de couteau, 3 dans le cou et 1 dans le ventre. J'ai vu des gyrophares, c'était les pompiers, qui eux n'osaient même pas s'interposer puisqu'il était armé. La gendarmerie n'était toujours pas là. Personne n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous aider. À part des porter plainte, madame, porter plainte. C'est bien beau de porter plainte, mais ça aide pas.
La colère de Stella, la fille de cette femme tuée par son compagnon, colère vis-à-vis des forces de l'ordre et de la justice. Il faut dire, Solène Delarquier, que la victime s'était déjà tournée vers les gendarmes.
Une plainte il y a un mois, plainte pour menace de mort. Son mari l'avait alors menacée avec un couteau et lui avait crevé ses pneus. Avant ça, Sylvia Walter avait déjà déposé une main courante. Cela fait plus de 3 ans que le couple était ensemble. Ils avaient acheté cette maison à Oberhofen. Mais dès le début, Jackie Walter s'est montré violent, raconte Stella, la fille de la victime. Au cours de la dernière année, sa mère l'a appelée à l'aide une trentaine de fois. Elle finit par demander le divorce, mais ne peut pas partir du domicile à cause du crédit. La dernière fois que les gendarmes sont intervenus, c'était vendredi soir. Sur leur conseil, la quadragénaire va dormir ailleurs. Dimanche soir, elle repasse chez elle et c'est à ce moment-là qu'il lui porte les coups de couteau fatals.
Solène Delarquier de France Bleu Alsace, l'homme de 58 ans, a tenté de se suicider après le drame. Il a finalement été maîtrisé par les gendarmes. Il est actuellement en garde à vue. Une question à présent. La Russie s'est-elle immiscée dans la politique britannique? Le Sunday Times sort une enquête explosive à maintenant un mois des élections générales. L'hebdomadaire a cherché à savoir pourquoi le gouvernement de Boris Johnson avait bloqué la publication d'un rapport parlementaire sur les ingérences russes dans la politique britannique la semaine dernière. Le journal affirme que 9 personnes personnalités russes, des hommes d'affaires, ont fait des donations au parti conservateur du Premier ministre. Louise Baudet, on parle de l'équivalent de plusieurs millions d'euros donnés aux Tories.
Oui, le Sunday Times donne des noms et aligne des chiffres. Plus +1 200 000 livres versés ces 7 dernières années par un certain Alexandre Temerko, un proche du Kremlin, qui se dit l'ami de Boris Johnson. 450 000 livres déboursés rien qu'en 2018 par l'épouse d'un ancien allié de Vladimir Poutine, Lubov Tchernoukine, en 2014. La même a payé 160 000 livres pour une partie de tennis avec Boris Johnson et David Cameron. Ça fait cher l'échange de balles. Au total, selon les calculs du site web Open Democracy, les Tories auraient reçu plus de 3,5 millions de livres d'origine russe depuis 2010. Donations pas forcément illégales, hein, elles ne sont pas plafonnées comme en France, mais leur montant et leur fréquence intriguent dans un pays très marqué, vous le savez, par l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal il y a 2 ans. Un pays où le gouvernement est accusé de sous-estimer l'ingérence du Kremlin et même de bloquer sciemment le fameux rapport. Vous l'avez dit, on ne cache rien du tout, rétorque Downing Street qui promet une publication en temps utile, soit après l'élection générale cruciale du 12 décembre prochain.
Explication de Louise Baudet. Une première médaille pour la France aux mondiaux d'athlétisme en e-sport à Dubaï. L'or pour Timothée Adolphe et son guide en 400 mètres. Dernière réunion de famille de l'année pour les Bleus de Didier Deschamps. L'équipe de France de foot est réunie à Clairefontaine pour préparer les 2 matchs de qualification à l'Euro 2020. Jeudi contre la Moldavie et dimanche en Albanie. Match sans Blaise Matuidi. Le milieu de terrain s'est blessé aux côtes hier en club avec la Juventus Turin. Le joueur d'Arsenal, Matteo Guendouzi, est venu le remplacer. Des nouvelles du ciel, la météo, Elodie Calac. Un temps mitigé pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
La perturbation poursuit sa route vers l'est ce soir avec de la pluie, de la neige vers 800 mètres en montagne. Demain, les nuages garderont souvent l'avantage. On aura un risque d'averse sur le sud-ouest le matin et de la Manche au nord de la Seine. L'après-midi, on trouvera nos averses du sud-ouest au nord-est et près de la Manche. En montagne, on aura des averses de neige vers 800 mètres sur les massifs du nord-est, 1400 sur les Pyrénées. Pour les éclaircies, direction les Pays de la Loire, l'Orléanais, puis la région parisienne et Champagne-Ardenne. Sur les Alpes, le soleil s'imposera. Sur le sud-est aussi, avec du vent jusqu'à 70 à 80 km à l'heure. Peu de changements pour les températures, toujours un peu juste, pas plus de moins 2 à 3 degrés sur l'est le matin, 3 à 10 ailleurs, et puis l'après-midi 7 à 13 degrés et jusqu'à 17 sur le sud-est.